Si, ben bonjour, bonjour, ben merci pour l'invitation. Je suis toujours heureux de pouvoir sortir de mon bocal pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir échanger avec des personnes d'horizons différents du mien, rendu au point où j'en suis je vais dire dans ma carrière, mais c'est vraiment intéressant d'essayer de partager puis d'échanger. Donc, je voudrais vous remercier pour cette occasion-là et l'occasion aussi de pour moi, ça a été de rebrasser tout ça autour du poste qualitatif. Et d'ailleurs, ma présentation que je vais vous faire est déjà disponible sur mon site. Donc, vous pouvez la consulter. Vous pourrez la consulter ultérieurement. Éventuellement, si je trouve des fautes d'orthographe, je les corrigerai au fur et à mesure. Donc, ben voilà. Donc, et j'imagine après, on aura une période de conversation où on va pouvoir plus échanger. Donc, comme j'expliquais, je vais vous faire une présentation qui peut-être va vous sembler sur certains aspects difficile, au sens où peut-être que vous n'avez pas nécessairement vu, vous êtes intéressé à certaines thématiques qui sont un peu des préalables. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller et puis, lors de notre discussion après, je pourrai revenir sur certains points à votre demande pour éclaircir les choses. Parce que si je commençais au fur et à mesure à tout expliquer, vous savez, les professeurs, ça peut parler très, très, très longtemps et de beaucoup de choses. Donc, on y va comme ça vous convient comme manière de fonctionner? Moi, je suis sur un iPad, contrairement parce que j'ai une assemblée départementale, donc je suis venu de l'université. Donc, je suis sur un iPad, ce qui fait que je travaille encore là sur un tout petit écran. Donc, je ne vous verrai pas durant la présentation, peut-être, mais je peux vous entendre. Donc, si vous voulez m'arrêter pour une question, pour quelque chose, n'hésitez pas. Et puis, on reviendra en mode plein écran. Donc, voilà. Donc, je vais partager mon écran qu'on a pratiqué tantôt et puis qui devrait bien fonctionner. Donc, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez la présentation?
Oui,
Oui,
excellent.
c'est parfait. C'est bon, c'est parti. Bien, tantôt le mot que votre collègue a prononcé, c'était des disruptions. Donc, j'utilise le terme disruption plutôt que recherche post-qualitative, puisque, à mon sens, la recherche post-qualitative n'est pas encore. C'est plus un projet, une série de disruptions dans la recherche qualitative qui sont issues d'insatisfaction, de problèmes, d'anomalies qui sont constatés dans le cours de la recherche qualitative. Donc, les gens qui prétendent pratiquer une recherche post-qualitative, peut-être que ce sont des personnes qui étirent un peu la sauce, là. Donc, il y a plusieurs tentatives. C'est pas tout à fait structuré. Et voilà. Donc, je vais tenter dans ma présentation de vous faire un portrait le plus, comment je dirais, général possible. Et pour ce faire, j'ai utilisé des auteurs et à partir de ces auteurs-là, qui sont essentiellement des auteurs anglophones, j'ai utilisé la traduction avec le DEPL et j'ai fait une correction après coup de la traduction. Donc, tout ça est en français. J'ai mis les auteurs. Il y a une bibliographie en fin de présentation où vous pourrez retrouver l'ensemble de ces textes-là que j'ai consultés. Donc, on commence. On commence avec un espèce de portrait général introductif. Patty Lader nous propose, à sa manière, parce que déjà, il y a eu plusieurs propositions de mettre, si vous voulez, en tableau les différents moments, tant de la recherche qualitative. Si vous êtes peut-être familier avec recherche positiviste, post-positiviste, recherche interprétative, recherche avec des approches critiques, recherche post-moderne. Ici, on a quelqu'un qui vient du monde du post-qualitatif, qui nous présente son portrait, qui bien sûr est relativement biaisé, qui pourrait être discutable, mais allons-y quand même. Donc, Cali, Cali 1, Cali 2, Cali 3, Cali 4, elle a 4 temps. Le premier temps, c'est le passage du positivisme, où on pensait qu'on pouvait se mettre face au monde, et puis on pouvait donc être à l'extérieur, sortir à l'extérieur du monde, être face à lui et le décrire, et arriver à une certaine vérité par rapport à ce monde-là. Donc, première étape, première critique, ça a été de passer à ce qu'on a appelé la recherche post-positiviste. Il y a beaucoup de post-positivistes. En quoi ça consistait? C'est que le post-positivisme disait que oui, on cherche toujours la vérité, mais on ne peut pas y arriver de façon directe. On est plusieurs à travailler, plusieurs chercheurs, il y a plusieurs recherches qui se font. Les voies sont multiples. Et puis, l'idée, c'est de les cumuler. Et donc, est issue du post-positivisme, cette idée de travailler qu'on a encore maintenant avec les comités de lecture des revues, c'est-à-dire que les personnes font des propositions et s'étendront, et en se critiquant une proposition et l'autre, qu'on arrive à cette idée de vérité. Donc, vérité demeure toujours. Troisième temps, c'est peut-être revenir au deuxième temps, excusez-moi. Patty Lauder combine le post-positivisme, les approches critiques. Vous avez vu ici cette idée d'empowerment et tout ça qui appartiennent aux approches critiques. Et puis le constructivisme. Donc, le temps qualitatif 2, c'est tout ce temps-là. Tandis que le qualitatif 3, c'est les théories postmodernes, où là, tout à coup, on abandonne cette idée de vérité qui était déjà, si vous voulez, abandonnée par le constructivisme pour l'idée de la validité. Donc, les résultats d'une recherche vont être valides tant et autant que on demeure dans le domaine de où a été produite cette étude-là. Par contre, il y a la multiplicité, il y a d'autres valeurs qui apparaissent avec la postmodernité, c'est-à-dire l'empathie, l'authenticité, la réflexivité. Vous remarquerez que, et on va y revenir sans doute, que les positivistes et post-positivistes disent qu'il ne faut pas, surtout pas, avoir d'empathie avec les sujets qui sont l'objet de notre recherche, puisqu'il faut garder une distance sous peine d'avoir un biais. Hein, donc, ce fameux mot-là du biais. Donc, il faut rester à distance et tout ça, tandis que dans les théories postmodernes, on commence à écarter ces trucs-là. On est dans les interprétations et puis on peut faire preuve d'empathie et de la réflexivité. Un thème qui va revenir, qu'est-ce qu'il y a derrière la réflexivité? C'est la capacité de la personne qui fait la recherche de réfléchir sur sa propre méthode. Donc, non seulement réfléchir sur le monde, mais tourner la réflexion sur soi en tant que personne, en tant que chercheur. Et donc, voilà la réflexivité, quelque chose qui est très important et qui va demeurer avec le poste qualitatif. Bon, bien sûr, le qualitatif 3, on est rendu au poste qualitatif. C'est une méthodologie qui est dite en devenir. Donc, on va beaucoup revenir là-dessus, l'idée du devenir qui est issue du post-structuralisme, qui ne fonctionne pas à partir de méthodes déjà établies, puisqu'on travaille sur quelque chose qui est en avenir. Je reviendrai. Donc, encore là, on est dans l'immanence. Donc, la recherche se fait en même temps que l'objet est en train de devenir. Et puis, donc, à ce moment-là, elle va être à la fois fugitive, puis elle va résister à la capture, l'immobilité, la hiérarchie, etc., etc. Donc, vous voyez tout de suite, dès ce petit paragraphe, toute la critique envers l'institution académique figé, rigide avec les méthodes et tout ça. Donc, je vais consacrer quelques pages d'écran aux critiques, à certaines formes de critiques. La première critique, c'est la critique de l'essentialisme. C'est cette idée que on connaît le monde, enfin, ça devient depuis Kant et puis bon, un peu avant. C'est-à-dire que notre connaissance du monde n'est pas directe. Elle est médiée par, chez Kant, ça va être l'espace-temps, notre appareil qui saisit l'espace-temps, mais les structures d'activité humaine et des systèmes sociaux. Donc, il y a quelque chose entre nous et le monde qui serait le langage, et en partie le langage et la culture, et puis que ces systèmes-là, le langage de la culture, nous permettent d'avoir accès à la réalité. Donc, ce présupposé-là nous amène à ce qui est pratiqué habituellement en recherche qualitative. Donc, toute personne qui fait un doctorat, et puis vous n'allez pas y échapper, on va vous demander de faire d'abord un cadrage théorique autour du problème, du phénomène qui vous intéresse. Et de ce cadrage théorique, vous allez extraire un certain nombre de catégories. Donc, un certain nombre de catégories que vous allez projeter sur vos résultats, les résultats de votre recherche, les données que vous allez recueillir, pardon, lors de votre recherche. Et puis, ben, il y a des logiciels InVivo en particulier qui vont vous aider à faire des calculs sur la catégorisation que vous avez faite de vos données. Tout ça est remis en question par le post-qualitatif. Pourquoi? Parce que la grande idée, c'est que si vous projetez un système catégoriel sur la réalité, nécessairement, vous allez retrouver votre système catégoriel et plus que ça, votre système de catégorie va fabriquer la réalité que vous allez étudier. Okay? Donc, c'est une critique qui est assez violente, si vous voulez, des méthodes qualitatives qu'on pratique habituellement. Une autre critique du post-positivisme, c'est la critique de l'objectivité. J'en ai parlé avec les biais. Malgré tout, on a inventé cette idée. Bon, il y avait les biais qu'il faut contourner. Cette idée de triangulation, donc d'utiliser deux ou trois méthodes pour arriver. Et si on arrive au même résultat, nos résultats sont plus valables concernant si on avait utilisé une même méthode. Et puis, malgré les évolutions, en fait, ce qu'on pourrait appeler des évolutions ou des changements qui ont été apportés au post-positivisme, entre autres par le biais de la FENO, où là, tout à coup, on s'est mis à prendre en compte l'expérience vécue, les récits, la voix des personnes. Donc, ça se traduit par le fait de passer, si vous voulez, de questionnaires fermés ou de questionnaires semi-ouverts à des récits de vie. Où la personne qui est l'objet de la recherche va être appelée à raconter sa vie, et puis on va travailler à partir de ça, avec cette espèce de présupposé que le récit qu'on peut faire de notre vie, c'est la vie elle-même et qu'il n'y a pas eu une transformation. On pourrait y revenir si vous voulez. Ou encore des concepts critiques, donc les recherches qualitatives qui ont été croisées avec si vous voulez, les avancées de l'école de Francfort où ce qu'on va chercher, c'est l'émancipation des personnes, la transformation, la justice sociale. Et tout ça va donner la mobilisation de ces concepts critiques-là, le recours, comment je dirais, la sortie du chercheur de l'université pour faire de la recherche-intervention ou pour faire de la recherche-action directement dans les milieux, justement pour favoriser cette émancipation et cette transformation. Le dernier, mais j'en ai déjà parlé, c'est l'idée de tout le travail préalable qui est demandé aux personnes doctorantes et qui est suivi par les projets de recherche, du design, etc., etc., vient contraindre la recherche elle-même et éviter son devenir. Donc, il y a une série, il y a un certain nombre de critiques que j'endosse et certaines autres de laquelle je pourrais me distancier quand on aura la discussion, on pourra revenir sur mes propres valeurs et mon propre jugement par rapport à ce truc-là. Je vous présente le post-qualitatif tel qu'il est présenté par les auteurs. Une autre critique, c'est l'anxiété méthodologique. Certains vont parler de méthodolâtrie, c'est-à-dire que finalement, la méthode devient plus importante que la recherche elle-même. Et souvent, il y a une grande anxiété, en tout cas chez mes doctorants, de dire, oui, mais ça va être quoi ma méthode? Et puis là, on s'en va dans le magasin des méthodes, et puis là, on se rend compte que chaque méthode qui est exposée pour elle-même, par des articles dits scientifiques, validés par les pairs, etc., ne s'applique pas nécessairement à notre terrain. Et puis, on est arrivé avec cette idée de bricolage qui a été proposée puis qui a été reprise. Donc, plusieurs méthodes sont plus ou moins assemblées. On va parler non pas d'une méthodologie, mais d'un design méthodologique. Vous avez eu le temps de lire les différentes critiques là, qui ont été faites autour de ça. Quelque chose qui est très, très, très important, autant pour le performatif, la recherche performative, que pour le poste qualitatif, c'est ce qu'on va appeler la crise de la représentation. Donc ça, c'est vraiment s'il y a quelque chose que vous devez retenir finalement de ma présentation, c'est cette idée de l'inadéquation du langage académique, soi-disant scientifique, assertif, à représenter certaines réalités ou certains phénomènes. Je donne toujours le même exemple, mais qui me fait rire. Ben, imaginez-vous Louis-Claude qui fait de la recherche qualitative, d'ethnographie, et puis qui s'en va tout à coup rencontrer des gens en Amérique centrale, sur une montagne, une population qui est un peu retirée, puis qui a gardé un certain nombre de coutumes et de manières de vivre et de manières d'expliquer le monde. Et puis là, ben, après une certaine discussion, le chaman me propose de prendre une petite substance. Et puis, ben, je prends la petite substance. Et puis là, tout à coup, je pars pendant 2 jours et 2 nuits avec à vivre quelque chose qui est des hallucinations. Et puis, bon, enfin, bref, vous imaginez toutes sortes de choses là-dedans. Et puis, ben, une fois que j'ai terminé mon terrain, je reviens à Montréal et puis j'écris mon expérience en disant j'ai été là-bas et le chaman, avec son chapeau coloré, m'a proposé une substance et puis j'ai halluciné pendant 3 jours. Ben, écoutez, qu'est-ce que j'ai dit de mon expérience? Absolument rien. Un peu la même chose dans certains cas. Ben, on a juste à penser au conflit qui est absolument troublant qu'on voit présentement. Si on parle aux gens là-bas et puis on le décrit de façon académique, on est incapable de rendre compte des émotions, du vécu, du drame. Donc, l'idée derrière ça, c'est que le langage, surtout le langage académique, est inadéquat pour rendre compte de certains phénomènes autour du sensible, autour du corps et autour d'un certain nombre d'autres thématiques qui se trouvent à intéresser beaucoup les tenants du poste qualitatif. Donc, c'est ça, l'idée, c'est que ça disparaît dans des chiffres, dans des diagrammes, dans des graphiques. L'émotion est complètement perdue, les affects sont complètement perdus en une espèce de langage complètement aseptisé. Par contre, si on veut vraiment rendre compte des choses, ben, j'ai mis ici de Elisabeth Saint-Pierre un certain nombre d'éléments que vous pouvez lire en diagonale, desquels on doit rendre compte, et puis le langage académique n'est pas suffisant. Quelle est la solution, Louis-Claude, allez-vous me demander? Ben, la solution qui a été trouvée, c'est de mobiliser le langage autrement. Et c'est là tout le sens de la recherche performative, ce qui n'est pas tout à fait le thème, mais on va voir que c'est récupéré par le poste qualitatif, c'est-à-dire que tout à coup, la personne va peut-être utiliser la poésie ou le récit, va utiliser des analogies, des métaphores, tout ça étant banni du langage académique au profit de la vérité, de la justesse et puis de la non-ambiguïté pour pouvoir exprimer des choses qui sont de l'ordre de l'émotion, du ressenti, etc. Donc, vous avez à l'intérieur du langage d'autres formes d'utilisation du langage qui tout à coup deviennent admissibles lors de l'analyse des données. La même chose, vous allez peut-être mobiliser le dessin. Peut-être que vous allez mobiliser des enregistrements médiatiques, la vidéo, etc., etc., etc. Donc, c'est l'ouverture du langage académique vers d'autres formes d'expression. Encore là, ici, la crise du logocentrisme, Derrida en a parlé beaucoup, c'est que tout se passe dans les pratiques langagières. Et l'idée, c'est que le grand oublié des pratiques langagières, ben, c'est le corps. Et ici, on parle d'enchevêtrement corporel avec le langage, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dit, et tout ce qui n'est pas transmissible, enfin la plupart du temps, dans un verbatim, va être mis de côté. Certaines personnes qui sont peut-être un peu plus sensibilisées vont encoder avec le verbatim un certain nombre de signes extra-langagiers qu'ils ont pu capter. Maintenant, j'ai parlé des crises, peut-être parler des précurseurs. Un des grands précurseurs pour moi du post-qualitatif, c'est John Law. Il a écrit un bouquin en 2004, donc ça fait très longtemps quand même, qui s'appelle Gantt's Method, donc, et qui remet en question les méthodes utilisées à ce moment-là par les sciences humaines et sociales en disant que le monde est désordonné. Donc, world is messy. Et puis, donc, quand le monde est désordonné, d'avoir des méthodes qui imposent un ordre et puis qui amènent un réductionnisme ou une simplicité doit être écartée au profit peut-être de méthodes qui sont inhabituelles ou inconnues et qui vont prendre en compte justement ce désordre et puis le désordre tel qu'il est perçu. Donc, world is messy, donc le désordre. Et puis, comment rendre compte du désordre avec nos méthodes de recherche? Donc, ici, il s'agit de créer des métaphores et des images, et vous me permettrez, avec ma voix un peu pas tout à fait agréable, de vous lire ce passage parce que je l'aime beaucoup. Il s'agit de créer des métaphores et des images de ce qui est impossible ou à peine possible, inimaginable ou presque impensable, glissant, indistinct, insaisissable, complexe, diffus, désordonné, texturé, vague, non spécifique, confus, désordonné, émotionnel, douloureux, agréable, plein d'espoir, horrible, perdu, racheté, visionnaire, angélique, démoniaque, banal, intuitif et imprévisible. Donc, pourquoi j'ai tenu à vous lire ça? C'est pour montrer l'ouverture qu'on peut ou qu'on doit avoir face au phénomène plutôt que de se rétracter dans un camp à soi très, très bien balisé. Du langage académique convenu. Voilà. Donc, maintenant, j'arrive au post-qualitatif en tant que tel. Élisabeth Saint-Pierre se réclame, et effectivement, je pense qu'on peut lui octroyer une bonne contribution à l'avènement de ce qui s'appelle le post-qualitatif. Et pour elle, la recherche post-qualitative n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours en devenir. Donc, l'idée, c'est de ne pas nécessairement travailler sur des objets de recherche qui sont advenus, mais de travailler sur des phénomènes qui sont en train de devenir. Et à ce moment-là, si on s'inscrit dans le devenir, et ça, c'est très deleuzien, à ce moment-là, on est dans l'immanence, donc ce qui n'est pas prévisible. Et puis, donc, c'est ça l'idée où on ne peut pas avoir une méthode toute faite qu'on va projeter sur ce qui est en train de devenir. Donc, on va voir que elle va rejeter cette idée de méthodologie parce qu'elle est avant, elle précède la recherche elle-même. Moi, personnellement, comme j'ai fait le grec ancien et tout ça, étant donné mon âge vénérable, j'aime bien dire que dans le mot méthodologie, il y a le mot odos, hein, donc odo, odos, qui vient de voyage. Et donc, si on file la métaphore ou on fait une analogie, bien, à ce moment-là, on dit que la recherche est un voyage et puis que la méthode, dans le fond, c'est le récit de voyage qu'on fait après coup du chemin qu'on a parcouru pour réaliser notre recherche. Un chemin qui va comporter des échecs, des bifurcations, etc., etc., etc. Donc, on va être face à des forces contingentes, imprévisibles, et puis à ce moment-là, ben, dans l'expérimentation, le tâtonnement, on va faire la recherche et faire la méthode. Ça va jusque-là?
Désolé, mon
OK.
micro était ouvert, je n'avais pas
Ah,
vu.
pas de problème. Pas de problème. Donc, Patty Lader, peut-être un peu plus modérée, un peu moins, si vous voulez, va-t-en guerre qu'Élisabeth Saint-Pierre. Pour elle, elle va parler d'une méthodologie à venir. Et vous avez très bien compris avec ce que je viens de dire, que mon discours se situe beaucoup plus là-dedans que dans la négation complète des méthodes. Parce que, par réflexivité, Il faut être en mesure de rendre compte dans notre chapitre consacré à la méthode du chemin qu'on a parcouru, rendre compte de façon critique et non pas simplement en relatant les faits. Donc, produire des connaissances différentes et produire des connaissances différemment, c'est un peu un slogan. Donc, le devenir, j'en parle depuis tantôt, c'est quelque chose qui a été thématisé par Deleuze et Guattari dans Mille plateaux. Ça date quand même de 1980, donc ça date quand même d'un certain temps où l'idée de dire, c'est que plutôt que de travailler sur des objets, comme j'ai dit tantôt, il faut s'ouvrir à ce qui est en train d'advenir. Je ne sais pas si vous connaissez l'anthropologue Tim Ingold. Moi, je le fréquente et puis, en fait, je fréquente ses écrits et je le trouve très, très, très inspirant. Il va nous parler des choses et puis il va nous parler des objets en disant que les objets, c'est des choses, mais qui sont passées et puis qui sont réifiées, qui sont structurées, tandis que les choses sont en devenir. Et puis il nous dit, ben, pour les objets, là, on a les méthodes conventionnelles, et puis pour les choses qui sont en devenir, ben, on a l'improvisation. Donc, si vous voulez, je pourrais vous tantôt vous donner la référence. Donc, vous avez vu, je vous ai présenté un peu les influences du post-structuralisme sur le mouvement post-qualitatif. Ce qui est intéressant de saisir, c'est que le post-structuralisme a eu lieu en France, bon, dans les années, à partir de fin des années 70, peut-être jusqu'aux années 90, avec Deleuze, j'en ai mentionné. On met Derrida, on met Foucault dans cette idée du post-structuralisme. Et puis, ça n'a pas eu une influence directe. C'est la traduction aux États-Unis de ce qu'ils ont appelé la French Theory, qui, elle, a été mobilisée par les gens autour du post-qualitatif et puis autour aussi de toute cette idée là, de la déconstruction qui a été utilisée dans les cultural studies pour déconstruire le discours colonial, déconstruire le discours post-masculiniste, déconstruire le discours des gens bien portants, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant de penser, c'est que tout ce mouvement-là du post-qualitatif, c'est pas pensé en France directement, il s'est pensé aux États-Unis avec un croisement entre le post-structuralisme et puis le pragmatisme américain, et est en train de revenir en France après coup. Donc, les Deleuze et tout ça, ben, ils sont lus, traduits par les Américains. Donc, c'est une petite parenthèse, mais pour montrer l'histoire un peu particulière. Il y avait eu la même chose avec chez les Grecs anciens, il ne faut pas que je m'écarte trop. Quand ils ont fermé l'école d'Athènes, tous les manuscrits de l'école d'Athènes sont allés en Syrie, ils ont été traduits en arabe, et puis c'est par la reconquête que finalement Platon et tout ça nous sont revenus suite à une espèce de détour où les Arabes ont commenté le savoir, et puis ça, une fois rendu à Tolède dans les années au 12e siècle, il y a eu éventuellement une renaissance. Bon, ferme le chapitre. L'autre influence, l'autre grande influence, c'est les néo-matérialismes. Néo-matérialismes qui sont pluriels, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, je vais en tracer des grands traits simplement pour pouvoir placer les choses et qu'on comprenne l'influence. Si après coup ça vous intéresse, on pourra revenir sur plus de détails. Donc, les néo-matérialistes, ce qu'ils proposent, c'est de repenser l'ontologie humaniste. Hein? Parce que l'ontologie humaniste, qu'est-ce que c'est? C'est que l'humain est au centre et puis il maîtrise le monde ou cherche à le maîtriser. Donc, tout est relatif aux personnes. Donc, si vous voulez, c'est les personnes humaines qui manipulent la matière. C'est les personnes humaines qui font les choses et qui sont au centre de toutes les actions. Et puis, ce présupposé-là est remis en question en disant que on va considérer les entités humaines, les entités matérielles comme étant séparées, mais inclus dans le même monde qui sont imbriqués et puis enchevêtrés. Donc, le mot enchevêtré, vous allez voir, revient souvent dans le discours des néo-matérialistes. Pourquoi? Parce que on ne pense plus des choses comme étant binaires, les humains et la matérialité, mais ils sont enchevêtrés. Donc, je vous le mime de façon maladroite. Donc, cette idée d'enchevêtrement permet de dépasser les dualismes et aussi permet de voir que plutôt que d'avoir la causalité, l'homme cause telle chose, ben, il y a aussi les entités matérielles qui ont un pouvoir d'action sur les humains. Et c'est là que le terme agentivité, que vous avez sans doute entendu, entre en ligne de compte, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a une agentivité, en fait, Bennett va dire qu'il y a une agentivité distribuée entre les différents types d'entités d'ontologie variable. Et puis, on va plutôt que de regarder simplement les causes et les effets, on va regarder comment cet ensemble-là fonctionne en système, si vous voulez. Donc, quel est l'impact, je reviendrai sur l'impact sur le, dans, je pense, dans deux transparents, vous allez plus saisir. Donc, je vais faire un aparté sur les méthodologies post-qualitatives. Donc, c'est un processus de recherche désordonné, c'est un voyage. L'idée, c'est que la personne qui fait la recherche doit être capable d'être surpris, désorienté, inconfortable, ne plus accepter le réductionnisme. Déjà, avec Edgar Morin, la complexité, etc., on avait déjà cette pensée-là du complexe et d'arrêter de découper les problèmes comme Descartes nous propose depuis le 16e siècle en sous-problèmes, etc., etc., mais de regarder les choses de façon beaucoup plus globale. Voilà. Et donc, les méthodologies donc tiennent plus du processus de sens que du résultat, plus de connecter, de vivre de ce qui va arriver, plus dans l'exploration que le résultat, rejet de la logique causale. Et puis, cette idée d'émergence, c'est de laisser la signification s'établir par elle-même. Donc, de ne plus projeter, parce qu'on a notre cadre théorique qu'on a bien fabriqué, qui a été validé dans notre projet de thèse, etc. Et puis là, on va le projeter sur notre terrain. Et puis, ben, j'ai un certain sens, un certain point, on va contraindre la signification des données qu'on a découvertes à partir de nos préalables. L'idée ici, c'est de dire, non, non, il faut que la signification émerge par elle-même. Donc, là, on voit le relent de cette idée de pensée de l'agentivité qui est conférée à d'autres aspects. Donc, voilà. Beau passage ici que je ne vais pas vous lire, mais sur les méthodes sont pensées comme des espaces fluides. Donc, Corot Lindbergh, dans un ouvrage tout à fait intéressant, parle de cette idée de plutôt que d'avoir des structures stables, rigides, etc., il faut des méthodes fluides qui sont capables de s'insérer dans les flux de ce qui se transforme, de ce qui apparaît au temps et au fur et à mesure, pardon, du déroulement de la recherche. Bien, tiens, là, ici, j'arrive à la mobilisation des néo-matérialistes, du nouveau néo-matérialisme dans la pensée de la recherche post-qualitative. C'est que on ne considère plus de façon hiérarchique les théories, les données, le chercheur. En fait, on pourrait faire une hiérarchie. Il y a le chercheur, il y a les théories, il y a la pensée, et puis après ça, il y a les données qu'on. Là, ici, là, l'idée, c'est de considérer l'ensemble comme un aplat. Donc, les données sont aussi importantes que les théories, que l'écriture elle-même, que la pensée, bon, etc., etc., etc. Donc, cette idée-là est particulièrement, comment je dirais, à la fois troublante, mais assez intéressante parce que ça nous permet de conférer aux données qu'on a colligées une agentivité. Là, tout à coup, les données. C'est non seulement nous qui les. Parce que la grande critique, c'est de dire, ah oui, mais on s'en va dans le réel et on le découpe de façon tout à fait arbitraire pour en faire des données. L'idée ici, c'est de dire non, 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 on va plutôt laisser les données émerger de la recherche. Et donc, plutôt que de considérer, plutôt que de les fabriquer comme on propose de les faire, c'est plutôt de les laisser elles-mêmes et de s'engager avec les données. Et de considérer que les données, c'est pas simplement dans le langage, parce que souvent, ça va être dans le langage. Si vous faites des entrevues, on est dans le langage. Si vous faites des observations et vous faites un rapport de votre, on est encore dans le langage. Donc, l'idée, c'est de dire qu'on produit des données dans et par la matérialité du corps, et puis que les technologies qu'on utilise sont aussi fabricantes. Donc, si on utilise des outils de captation, ben, les médias qu'on utilise elles-mêmes participent à la fabrication du monde, des données. Hein? Donc, si on regarde le ciel avec un télescope, ben, ça va être complètement différent que si on le regarde avec un autre outil. Donc, l'outil et le corps de la personne qui fait la recherche, on commence à lui accorder de l'importance. Donc, voilà. Korolenberg va nous dire What the data wants? Qu'est-ce que les données veulent? Donc, elle nous dit peut-être de se mettre à l'écoute de nos données et de voir qu'est-ce que les données veulent. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est plutôt que de contraindre, de se laisser dans une zone ouverte, flottante, pour permettre aux données de nous révéler en fait ce qu'elles veulent. Maggie McClure va parler, elle, de données qui luisent. Il y a dans l'ensemble de toute la masse des données, certaines données, des glow, ils attirent notre attention par elles-mêmes. Et donc, la lueur est décrite en termes d'affect. Encore là, ici, je ne vais pas nécessairement entrer dans la théorie des affects. Si vous avez envie qu'on en parle plus tard, je vais simplement dire que les affects, c'est ce qui à la fois touche la personne qui fait la recherche dans ce cas-ci, mais aussi qui la fait bouger, la fait. Donc, un affect, c'est quelque chose que l'on ressent, mais qui nous fait agir. Donc, un affect a toujours les deux aspects, l'aspect du ressenti puis l'aspect de la mise en action. Donc, l'idée ici, quand on applique la théorie des affects à cette idée de l'agentivité des données, c'est que certaines données qui viennent nous chercher pour parler en langage populaire et qui nous font réorganiser l'ensemble de notre analyse. Et on n'est pas sous le contrôle de la conscience ou de l'intention. On est vraiment dans l'ordre du corporel, de l'intuitif, du ressenti. Je vais passer là-dessus, sur cette idée des données qui brillent, le temps passe vite. L'analyse des données, je ne vais pas m'appesantir trop là-dessus, simplement je vais vous le nommer. C'est qu'en analyse de données, la littérature est quand même assez vaste. Il y a des gens qui vont travailler avec l'idée du rhizome, donc ils vont faire une analyse rhizomatique. D'autres vont faire une analyse cartographique, donc on va cartographier les données plutôt que de les hiérarchiser, etc. Il y a la déconstruction qui peut aussi être utilisée et l'archéologie. Donc c'est si vous faites post-qualitative data et puis rhizome, vous allez tomber sur une série d'études qui cherchent à mobiliser le rhizome dans l'analyse de données. D'autres formes d'analyse de données qui sont empruntées au néo-matérialiste, théorie d'acteurs réseau de Bruno Latour, regretté Bruno Latour, cette théorie d'acteurs réseau qui permet de regarder dans un même plan des entités humaines, des entités matérielles, et puis de voir comment ces entités-là se traduisent les unes aux autres pour coexister dans un même plan. Il a fait une analyse particulièrement dans les années 80, je pense, une ethnographie particulièrement intéressante d'un laboratoire où justement il a réussi à montrer que les dispositifs d'inscription de l'expérience fabriquaient l'expérience elles-mêmes. Voilà. Agentivité distribuée. Bennett nous parle de la danse d'agentivité, j'en parlais tantôt. Donc, c'est de prendre un phénomène qui implique une matérialité et puis de regarder comment les matérialités agissent sur les personnes et les personnes vice-versa. Les coupures agentielles, je ne vais pas en parler. J'ai un transparent là, ici, mais je vais passer vite. Vous pourrez le regarder plus tard. C'est un peu ce que je vous ai dit de façon très succincte. L'agentivité distribuée aussi. Donc, l'idée, c'est de considérer qu'il n'y a pas simplement une ontologie, mais qu'il y a différents types d'ontologie. Ici, je vais sauter sur Karen Barad, qui est assez difficile. J'ai parlé des données, j'ai parlé de l'analyse, maintenant l'écriture de la recherche. Elle aussi est très mobilisée par les post-qualitatifs. Elle était déjà, comme je vous ai parlé, dans la recherche performative, c'est-à-dire que les personnes qui font de la recherche performative vont mobiliser la poésie, vont mobiliser le théâtre, vont mobiliser toutes sortes de formes de création pour arriver à exprimer ce qui a dépassé les limites, si vous voulez, de la représentation par le langage académique. Ici, l'idée de l'écriture, on l'apprend avec l'idée d'agentivité. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive, votre expérience, c'est que vous vous mettez à écrire à partir d'un plan, puis là, tout à coup, ça se met à écrire. Et puis, tout à coup, vous dérogez de votre plan. On dirait que c'est votre écriture. Comme moi, j'en fais souvent l'expérience. C'est le fait d'écrire qui, finalement, vous amène ailleurs que là où vous avez prévu. Donc, il y a une agentivité dans l'activité d'écriture qui vient se dépasser, qui vient dépasser notre intention. Voilà. Donc, il y a aussi l'idée de l'engagement avec l'écriture. Donc, j'ai plusieurs exemples. Là, on va commencer dans la partie un peu plus intéressante où il y a des exemples, parce que jusqu'à maintenant, je concède que c'était relativement sec, ma présentation. Donc, l'idée d'engagement avec l'écriture, c'est dans la veine de Richardson. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, la recherche par l'écriture. Donc, l'écriture devient pour le chercheur sa manière de faire la recherche. Donc, c'est en écrivant que la recherche se fait. Okay? Donc, quelque chose qui est très important, reporté chez les post-qualitatifs. Donc, je vous ai donné ici un exemple de Guttorm, qui est en train de parler de son travail et qui éclate le langage pour être capable de dire autre chose ou de dire autrement ou de dire ce qu'elle ne pouvait pas dire avec le langage académique. Donc, voilà. Autre exemple, Falling Freely. Hein, et donc, c'est un truc qu'elle avait observé au moment d'écriture de sa recherche, et puis elle a décidé non seulement de l'écrire de façon poétique, mais dans la matérialité même de l'écriture, formuler des choses. Bien sûr, j'ai choisi des exemples extrêmes, comme ils disent, ne pas faire à la maison, parce que vous allez peut-être avoir des réactions un peu violentes. Voilà. Un autre exemple, vous pourrez les regarder. Ici, simplement, qu'est-ce qui émerge? Des mots, des gestes. On peut écrire, dire. Le silence, machin, et puis tout à coup, elle dit, on peut crier tout le monde ensemble, on n'a pas besoin de méthodologie, bon, etc. Vous voyez, vous pouvez lire. Là. Donc, il y a cette manière de, plutôt que d'écrire en langage académique, de l'exprimer aussi par l'écrit. Ça ici, c'est plus récent. Ils appellent ça des writescapes, c'est-à-dire que c'est un groupe qui écrit la recherche, mais qui l'écrivent ensemble et qui font des paysages d'écriture. Donc, c'est sûr, ceux qui avaient fait des études littéraires comme moi, il y a très, très longtemps, dans mon cas, vous allez dire, oui, mais il y avait des poèmes comme ça, des calligrammes, etc., etc. Mais l'idée ici, c'est que c'est de l'écriture académique. Donc, les procédés existaient déjà. Il n'y a rien d'inventé là-dedans. Des calligrammes, hein, ça arrive même depuis qu'il... Apollinaire, je pense qu'il faisait ça, vous me corrigerez. Et là, tout à coup, on amène ça comme étant une manière d'écrire la recherche. Une autre façon de travailler l'écriture dans le post-qualitatif, c'est l'écriture polyvocale. Donc, qu'est-ce que c'est qui est derrière l'idée de l'écriture polyvocale? C'est la critique où la personne qui fait la recherche a sa voix, VOIX, mais aussi parle au nom de toutes les personnes qui ont été interrogées quand elle fait son analyse, etc. Et l'idée du polyvocal, c'est de dire, bon, on va les inclure, mais on va inclure leur voix dans l'écriture de la recherche. Okay? Donc, vous allez avoir des textes avec, et les différentes voix sont identifiées par un artifice typographique, un positionnement, etc. Pour quoi? Pour faire des textes plus ouverts, ou plutôt que de tout fusionner dans une même voix qui perd complètement sa singularité, on y inclut plusieurs singularités et c'est dans le fait qu'ils s'interchoquent les uns aux autres que du sens différent va surgir. Okay? J'ai ici l'exemple de. J'ai un exemple, mais qui est une écriture polyvocale, mais qui est un exemple d'écriture polyvocale où la personne elle-même revendique dans sa thèse plusieurs voix. Il y a la personne qui fait la recherche. Il y a la personne qui ressent des choses pendant qu'elle fait la recherche. Il y a la personne qui cherche à comprendre qu'est-ce qu'elle vit pendant qu'elle fait ça. Donc, comme vous voyez ici, il y a différents types de typographies. Et puis, ben, la thèse de Cynthia Nourry qui a été défendue, donc qui est terminée, qui a été défendue, une thèse de 450 pages où il y a quatre voix différentes qui s'entrecroisent dans la même thèse. Donc, vous avez ça. J'avais fait une expérience, je ne la ferai pas avec vous, mais une expérience, vous la ferez vous-même. Vous la ferez vous-même chez vous. Je demande à mes étudiants, je vais demander aussi en conférence, il y a combien de personnes en vous? Là, je me dis, ben, pouvez-vous les nommer? Hein? En tout cas, dans Louis-Claude, il y a le petit garçon, il y a l'ado rebelle, il y a celui qui est dans la contre-culture, il y a le professeur universitaire, il y a, bon, etc., etc. Et tout ça, ces personnages-là, je me dis, mais la question que je pose après, c'est de dire, mais comment ça se fait qu'il y en a juste une qui fait la thèse? Question ouverte. L'écriture diffractive, j'en avais un exemple de, attendez, excusez-moi, j'avais un exemple d'écriture polyvocale, je vous la montrerai tantôt. Non, ici. Okay, excusez-moi. Un exemple d'écriture polyvocale, c'est un texte que j'ai fait justement avec Cynthia Nourry. Vous le voyez toujours? Vous voyez le texte que je vous. Oui?
Oui, on le voit.
C'est bon, merci. Parce que je me demandais si c'était juste associé à mon logiciel de présentation, parce que j'étais allé ailleurs. Donc, l'idée, c'est qu'avec Cynthia, pendant 5 ans, on a écrit ensemble. Mais on n'a pas fusionné nos voix. Donc, on a toujours chacune de nous deux, comme elle était une étudiante qui réagissait à moi, qui était un cisgenre, théoricien, machin, ben, on a gardé nos voix différentes. Excusez-moi, là, je vais. Donc, vous voyez ici, ça fait que chacune des personnes va parler, et puis parfois, on va avoir un texte qui est en commun. Et puis, on a aussi mis une voix en marche, bien sûr, qu'on a un peu poussé la chose. Donc, il y a des citations, mais Cynthia a toujours gardé sa voix, sa manière de réagir par rapport aux propos. Donc, c'est une des façons, si vous voulez, de ne pas tout confondre dans le même. C'est une critique qui était aussi beaucoup appliquée. Je m'en reviens à mon. Tac, 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 je reviens, excusez-moi. C'est une critique qui avait été faite, je pense, je sais pas si c'est par Spivak, en tout cas, pour dire, ben, c'est très colonisateur. Tu sais, on fait des recherches avec des personnes qui viennent d'ailleurs, et puis là, tout à coup, on parle à leur place. Donc, toute cette idée de donner la voix, c'est tout ce mouvement-là qui est derrière le polyvocal. Ça, on l'a vu. Le diffractif, je vous ai donné un exemple, vous pourrez le voir, c'est un exemple qui est un article déjà publié. Et je vais terminer là-dessus, une recherche qui est dite non représentationnelle. Okay? Donc, c'est un courant, il y a Vanini qui a été un des premiers, mais Treff en premier qui était en géographie. Et après, c'est un mouvement qui est repris en disant, on ne va pas représenter le monde avec notre recherche. Qu'est-ce que c'est l'idée de représenter? C'est le redoubler avec du langage. Okay? Donc, on ne va pas le redoubler avec du langage, mais on va le présenter directement dans l'écriture, la photo, la danse, etc., etc. Donc, et puis, il nous donne des conseils, se concentrer sur les événements, privilégier l'étude des relations. La relationnalité. Excusez-moi. Bon. Excusez-moi. Ça arrive toujours quand on ne prévoit pas. Se concentrer sur les actions. Analyser les résonances affectives. J'ai parlé des affects. Donc, dans notre recherche, mettre de l'avant les affects, autant des personnes que les notes et examiner les arrière-plans. C'est quelque chose que John Law propose. Il appelle ça le hinterland, c'est-à-dire on va focuser sur quelque chose dans notre recherche, mais l'idée, c'est de regarder aussi l'espèce d'arrière-plan sociopolitique, culturel dans lequel se passe notre phénomène. Un autre exemple, toujours issu de la thèse de Cynthia Nourry, qui est justement non représentationnelle, elle travaille sur le Vox Pop. Elle a travaillé, donc sa thèse est déposée. Et puis, elle voulait faire et une recherche-création, et puis tout à coup, une recherche. Et elle a représenté elle-même dans sa thèse, avec ses deux bonhommes, son dilemme de sa thèse à deux têtes. Et donc, on a ici un peu l'écriture. Et au fur et à mesure, oh, pardon, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a décidé de couper une tête. Et puis, ben, elle le montre comme tel dans sa recherche. Et une autre façon aussi, c'est que ça, c'est sa conclusion. Elle nous montre la trajectoire qu'elle a accomplie tout au long de sa thèse. Donc, voilà. Donc, mobilisation de autre chose que seulement l'écriture. J'ai un autre exemple ici. C'est une collègue, Isabelle Mailly, qui a été affectée d'un ce qu'elle appelle une crise vestibulaire qui l'a forcée à prendre sa retraite parce qu'elle n'était plus capable d'enseigner à cause des néons, des écrans et tout ça. Et puis, ben, quand on s'est parlé, moi, j'ai dit, mais pourquoi tu ne dessines pas? Parce que toi, on a ici quelque chose. Si je vous dis, ah, j'ai eu une migraine hier soir, et si je regarde ce dessin-là, la migraine, elle devient beaucoup plus présente. Même je la ressens dans mon corps. Ce qu'elle vit. Ouais, donc, on dépasse de nommer les choses et puis de les décrire ou de les raconter en les. Donc, j'ai mis quelques-uns de ces tableaux. Donc, c'est son dernier article où elle a écrit qu'est-ce que la recherche pourrait être si je ne peux plus faire de recherche avec l'écriture. Ici, c'est un autre exemple. J'en ai encore, je pense, deux. Ici, c'est une thèse dessinée et écrite à la main. Donc, ça s'est fait dans un contexte de recherche-création, mais ce n'est pas vraiment de recherche-création. Véronique a travaillé sur les récits de voyage, à la fois les récits de voyage de femmes, un corpus, elle a travaillé, et puis elle-même a fait un voyage, mais c'est un voyage immobile, de 6 mois sur une île au centre du Saint-Laurent. Et puis, ben, sa thèse relate en croisant tout ça, son cadre théorique qui est l'écoféminisme, un corpus d'études et ce qu'elle a vécu. Et puis, ben, aussi, elle s'est personnifiée comme étant le petit personnage que vous voyez là, qui est Fil de Ferriste. Et elle commence sa thèse en expliquant comment elle s'est sentie en faisant sa thèse. Donc, on la voit au début. En train de plonger, en train d'être submergé. Et puis, bon, vous comprenez l'idée de. Et quelque chose d'absolument fascinant, c'est que chacun des petits points a été fait à la main un par un. Donc, il y a une assise physique dans cette façon Donc, j'ai pris quelques planches, là. Dans un cas, c'est un truc sur la problématique. Dans un autre, c'est où elle fait un compte-rendu des auteurs. Et puis, les auteurs en question, elles dessinaient la couverture du livre. Donc, c'est une façon pour elles d'accéder à la pensée du livre en la redessinant. Ici, dans la planche en bas, vous avez son journal qui est découpé et puis qui est collé avec une autre voix. Donc, vous avez ici deux voix VOIX. Vous avez la première voix qui était le dessin au moment où elle a fait le travail. Et après, on a une autre voix qui est la voix où elle réfléchissait à ce qui se passait. Vous avez ici là, les citations et tout ça, comment elle a utilisé le matériel. Et tout ça est fait en APA, tout à fait conforme. Une autre thèse qui, elle, a été soutenue à l'Université de Montréal, c'est Agathe François. Elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé une thèse sur le post-humanisme. Et puis là, tout à coup, elle s'est rendue compte que ça l'intéressait plus. Et puis, elle a décidé de mobiliser des trucs du post-humanisme, c'est-à-dire le recours aux animaux et tout ça, dans sa thèse, et puis d'écrire à partir de son ressenti. Donc, on a ici un de ses personnages, la tortue. Elle a fait l'écriture à la main, écriture et les aquarelles, c'est d'elle-même. Donc, il y a dans les aquarelles et dans l'écriture à la main. Puis pourquoi j'ai mis ça, c'est parce que j'étais à la fois jury et une personne où elle a travaillé mes textes. Puis j'ai eu beaucoup d'émotions quand je me suis lu, écrit à la main par quelqu'un d'autre. Je me suis dit, ah, non seulement elle m'a lu, mais elle m'a écrit. Enfin, il y a quelque chose que j'ai trouvé. Et ça, ici, la dernière planche, c'est comment elle en a eu marre. Donc, vous avez à gauche son texte de sa thèse qui était en voie de réalisation. Puis là, tout à coup, elle a collé le poisson combattant. Et puis, on en avait complètement marre. Donc, elle a basculé complètement dans notre poste qualitatif. Et donc, elle s'est mise à combattre le langage académique. Voilà. La dernière, et je termine avec ça, puis je suis à peu près dans les temps. Moi, j'ai toujours à mes étudiants un bon cours, c'est un cours qui finit à l'heure, donc je vais tenter de finir à l'heure. J'ai trouvé ça intéressant, c'est des explorations disruptives. Ça s'appelle Machine Conférence Académique. C'est un groupe de chercheurs qui se présentent dans des conférences et puis qui défont complètement l'idée. Et donc, ils font des événements, conférences performatives à l'intérieur pour critiquer le système à l'intérieur. Donc, si vous voulez, c'est une façon de contester ou de brasser la cage du qualitatif comme ça. J'ai mis un exemple, je pourrais vous donner en référence. Voilà, et j'ai la bibliographie des auteurs que j'ai mobilisés. Et ça se termine comme ça. Je vais vous remercier. Attendez, tac, 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 je reviens sur Zoom. J'enlève le
Je
partage.
vous enlève le partage.
Et voilà.
Merci beaucoup, M. Paquin. Je dirais que c'est rare que j'ai le sourire en écoutant des approches méthodologiques. Je vois les
Ah.
thèses avec les dessins. Je vois qu'il faut quasiment être artiste pour en même temps être. C'est vraiment agréable. Je pense que j'aimerais ça lire ça, une thèse comme ça, parce que ça fait changement de ce que je lis d'habitude. Donc.
Elle est diffusée sur Archipel. Je pourrais vous donner l'adresse. Elle est déjà accessible comme elle a
Oui,
été
tout à
déposée.
fait. Donc, on va prendre une petite pause de 15 minutes. On va reprendre à 11 heures. Ensuite, on va avoir des questions. Je pense que les gens ont plein de questions. Je suis sûr, vraiment intéressant comme conférence. Donc,
Avec grand plaisir.
on revient à 11 heures.
À tantôt.
Merci, à tantôt.